La science CQFD, Natacha Triou.
Depuis le développement de l'éthologie moderne au cours du XXe siècle, notre regard sur les animaux ne cesse d'évoluer. Comprennent-ils la mort et font-ils le deuil de leurs proches ? L'étude des réactions animales face à la mort est un champ de recherche récent. Nous avons déjà de nombreuses observations. Des baleines qui transportent leurs petits morts pendant plusieurs jours, mais aussi des primates, des éléphants. Jusqu'à présent, l'expérience du deuil était considérée comme le propre de l'être humain. Mais l'éthologie fait tomber de plus en plus de barrières censées nous séparer du reste du monde animal. On sait que l'utilisation d'outils, la gastronomie ou même d'une forme de langage n'est plus le propre de notre espèce. Alors qu'en est-il du deuil ? Deuil animal, six pattes sous terre. Sabrina Krief, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes vétérinaire et primatologue, professeure au Muséum d'Histoire Naturelle, spécialiste d'écologie comportementale et de zoopharmacognosie. Nous sommes en ligne également avec Élise Huchard, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes chercheuse CNRS en écologie comportementale à l'Institut des sciences de l'évolution Montpellier, spécialiste de l'évolution des comportements sociaux chez les mammifères. Merci à vous deux d'avoir accepté notre invitation en direct sur France Culture et merci à vous qui nous écoutez. N'hésitez pas à nous suivre sur X, ex-Twitter, à nous poser des questions. Pour vous, tous les jours, on publie de nombreuses ressources, de nombreux liens pour compléter votre écoute. C'est sur notre live tweet qui commence tout de suite. Alors, comment les animaux font-ils leur deuil ? Et le font-ils vraiment ? Et ont-ils une conscience de la mort d'autrui et de leur propre mort ? Nous sommes ensemble jusqu'à 17h pour répondre à ces questions. On commence avec un exemple iconique, Coco, le gorille qui parle. Nous sommes en 1978 et c'est notre archive du jour.
Une femelle gorille s'occupe de son petit jusqu'à ce qu'il ait 3 ans. Comme elle n'en a pas, Coco doit se contenter de poupées et de jouets à cajoler.
Ok, come on out, kids. No, you are a sweetheart. You are a sweetheart.
One of our volunteers had.
Une de nos bénévoles avait trouvé une portée de chaton.
Baby? This baby? Let's put them all on your.
She was able to just.
Elle les a amenés au travail et Coco en a désigné un.
Pointed to one.
And then she. Et elle a toujours choisi le même.
His full name.
Son nom complet était Boule de Poil, mais on l'appelait Boule parce qu'il ressemblait à une boule de poil. Elle l'a adopté et il l'adorait. Quand il a eu 6 mois, il a commencé à sortir de la propriété en cachette. Il a été renversé par une voiture. Coco était effondré.
Quand on lui a demandé « Où va-t-on quand on meurt ?», elle a répondu en signe « Trou confortable. Au revoir. » Penny en a déduit qu'elle comprenait.
Voilà un extrait du documentaire « La fascinante histoire de Coco, le gorille qui parle » produit par la BBC en 1978. Coco qui a appris donc le langage des signes avec l'éthologue Penny Patterson et qui, Sabrina Krief, exprime de la tristesse au lors de la mort de Boule, son chat adoptif.
Oui, ça soulève beaucoup de questions. Et d'ailleurs, le thème même d'aujourd'hui, je pense, soulève beaucoup de questions. Et malheureusement, je pense qu'on n'aura pas toutes les réponses. Et en tout cas, le cas de Coco est effectivement assez particulier, notamment parce que c'est un gorille qui vit parmi les humains. Et là, on parle d'un deuil, ou en tout cas de la perte d'un être auquel elle s'est attachée, qui est d'une autre espèce que la sienne. Voilà, donc la difficulté, c'est aussi de ne pas surinterpréter les observations qu'on peut faire en captivité, et notamment par des animaux qui sont dans des relations très étroites avec leurs soigneurs, ou avec, dans ce cas-là, c'est quasiment une famille, pour porter un regard le plus objectif et scientifique possible sur ce qui se passe en milieu naturel, et où, évidemment, et l'environnement naturel et affectif des animaux et de chacun des individus d'une espèce est complètement différent.
Élise Huchard, votre réaction, vous aussi, à l'écoute de cette archive ?
Je pense que cette archive, elle représente un cas vraiment unique d'un grand singe qui a été élevé parmi les humains et à qui on a offert des outils d'humains, en fait, pour exprimer des émotions. Et donc, ce qui est très important dans ce témoignage, c'est effectivement que Coco exprime clairement sa tristesse. Après, le problème de façon générale, comme l'a dit Sabrina, quand on travaille sur tous les autres animaux, et en particulier dans la nature, dans un contexte plus naturel, c'est que on n'a pas cette fenêtre ouverte sur l'état d'esprit des animaux que nous donne cet usage du langage des signes par Coco. Et donc, ça va être beaucoup plus compliqué d'aller savoir ce qui se passe dans leur tête à ce moment-là. Et en effet, comme l'a bien souligné Sabrina, c'est un champ d'étude où qui soulève souvent plus de questions qu'il n'apporte de réponses.
C'est en effet plus compliqué de travailler sur des animaux dans leur contexte, dans leur état naturel. Mais Sabrina Claff, dans leur environnement naturel, on a quand même aussi une collection d'observations à ce sujet.
Oui, on a des observations qui ne font pas forcément le lien entre la réaction face à la mort et l'état affectif de l'individu qui est face à un congénère mort. Alors, le plus souvent, on s'interroge sur leur réaction face à la mort d'un des leurs et pas là, comme c'est le cas, face à un animal d'une autre espèce, voire un animal domestique. Et comme vous le soulignez dans l'introduction, on a différentes espèces et surtout des individus de ces espèces qui ont été l'objet d'observations. Et donc, par exemple, c'est cétacés qui gardent à la surface des corps morts, ou bien, dans le cas des chimpanzés, des femelles qui portent leurs petits pendant des jours, des semaines, parfois des mois, ou encore des rituels, entre guillemets, qui semblent exister chez les éléphants. On essaye de définir une réponse face à la mort, mais le plus souvent, on essaye d'objectiver des comportements et c'est beaucoup plus difficile d'inférer des états cognitifs, donc savoir s'ils savent que l'individu est véritablement mort et qu'est-ce que ça signifie, et également tout ce qui est émotionnel, qui est évidemment bien plus difficile à évaluer.
Qu'est-ce qu'on a observé justement chez ces éléphants et ces formes de, entre guillemets, vraiment rituels?
Alors, pour mon cas, en fait, je travaille en Ouganda, dans une forêt qui est assez difficile d'accès. Et donc, je travaille plus spécifiquement sur les chimpanzés, mais dans cette forêt vivent aussi des éléphants. Et pour ces deux espèces, c'est extrêmement difficile de pouvoir suivre les individus jusqu'à leur décès. Pour les chimpanzés, parce qu'ils ont un système qui s'appelle fission-fusion. Et donc, les individus, en bonne santé, se séparent et se retrouvent au gré des jours et de façon totalement aléatoire, en tout cas pour nous. Et donc, c'est extrêmement difficile de suivre un individu malade, voire mourant. Donc, les cas autour des chimpanzés morts sont rares. Et dans le cas des éléphants, en forêt, c'est extrêmement dangereux de suivre les éléphants. Donc, pour notre part, ce qu'on a fait, c'est qu'on a placé des caméras-trappes, donc des pièges photo à détection de présence. Là, pour le cas, c'était des vidéos. Et donc, on a retrouvé ce qui a déjà été décrit, c'est-à-dire des individus qui viennent retrouver les dépouilles d'éléphants morts. Donc, dans notre cas, on a eu trois observations de long terme où, notamment, il y avait une femelle morte avec son petit. Et on a eu, pendant plusieurs mois, des événements où les familles éléphants revenaient pour toucher, caresser, sentir, retourner, se mettre sur leur corps des parties donc restant des dépouilles, et ça donc pendant plusieurs mois.
Vous, Élise Huchard, vous travaillez également sur les babouins chacma, que vous étudiez spécifiquement. Qu'avez-vous, vous aussi, observé?
Oui, donc moi, je co-dirige une station de recherche, un projet de long terme sur les babouins chacma près du désert du Namib. Donc, ça fait une vingtaine d'années que nos équipes suivent deux grands groupes de babouins chacma au quotidien. Et les babouins chacma, c'est aussi une espèce qui vit longtemps, comme beaucoup de primates non humains, mais un petit peu moins longtemps que les chimpanzés. Et du coup, ça nous arrive quand même de façon assez régulière d'observer des mortalités, et en particulier des mortalités de petits et de juvéniles, de bébés. Et on a on essaie dans ces cas-là de documenter autant que possible les comportements autour du corps du bébé, et en particulier un comportement qui est très très saillant, très très évident et frappant. C'est le fait, les mères qui portent ces petits cadavres pendant plusieurs jours, parfois même plusieurs semaines, et jusqu'à temps que le cadavre soit complètement momifié, et qui pendant ces plusieurs jours vont faire des comportements comme du toilettage ou démontrer très souvent de l'intérêt envers ces cadavres. C'est aussi un comportement qui est très coûteux pour elles parce que elles font des longs trajets quotidiens. Elles sont obligées, là, le bébé est plus, évidemment, le corps n'est plus capable de s'accrocher à sa mère, donc elles sont obligées de le soutenir et de marcher sur trois pattes, ce qui pour manger leur rend la vie très compliquée. Donc voilà, c'est ce genre d'observation qu'on a fait en routine. Et on a maintenant un programme de recherche pour essayer de documenter un peu plus les comportements de ces mères de façon plus systématique. En fait, on est passé de récolter des anecdotes, des observations anecdotiques, à essayer de vraiment tester des hypothèses.
Sabrina Clef, en effet, chez les primates, on observe une grande diversité de comportements.
Oui, alors on observe effectivement aussi chez les chimpanzés ces transports et puis ces comportements qui peuvent être différents. Alors là, effectivement, il y a des comportements vis-à-vis des propres bébés des mères, mais on peut aussi observer des comportements notamment de soins et dépouillage, comme le décrit très bien Élise, d'individus adultes envers d'autres individus qui sont morts et qui sont aussi adultes et qui parfois n'auraient pas suscité l'épouillage par certains membres du groupe. Donc c'est comme ça qu'on arrive en fait à essayer d'objectiver le fait que les individus du groupe se rendent compte qu'il y a un changement d'état. Donc on peut voir par exemple qu'ils testent la réactivité des corps. Donc parfois les chimpanzés notamment ne sont pas morts et d'autres viennent autour. Par exemple, on a eu le cas d'un chimpanzé qui était blessé avec de très gros abcès et régulièrement, donc quasiment tous les jours, les autres chimpanzés venaient auprès de lui, le touchaient, donc poussaient doucement son corps pour voir s'il répondait, s'il réagissait. Et puis continuer leur chemin parce qu'il était encore vivant, jusque parfois à constater le décès. Et ça, c'est aussi le cas souvent pour les mères chimpanzés qui prennent le bras de leur petit pour tester la réponse musculaire. Ça nous permet de comprendre que pour eux, il y a le passage d'un corps animé, vivant, mobile, à un état inanimé. Et puis ensuite, donc, il y a parfois ces rassemblements autour des corps qui peuvent faire penser à des veillées. Et donc là, on se rapproche aux définitions du deuil chez les humains, ce qui aussi se trouve vraiment très clairement chez les éléphants, donc qui viennent en famille et restent ensemble autour des dépouilles. Il y a une autre partie dans le deuil humain qui est l'aspect funérailles. Et ça, c'est quelque chose qui est beaucoup moins perceptible chez les animaux. Donc, on a vraiment quelques cas très rares où il a été décrit que des chimpanzés mettaient des branchages sur les corps d'individus morts. C'est aussi le cas pour les éléphants parfois. Et il y a eu cet article publié très récemment, donc en février de cette année, où 5 corps d'éléphantaux ont été retrouvés, enterrés dans des espèces de canaux d'irrigation. Donc c'était des éléphants d'Asie en Inde, et donc les éléphantons ont été retrouvés les pattes en l'air, recouverts de terre. Donc c'est un cas tout à fait mystérieux qu'on n'a pas encore complètement explicité, mais qui laisse à entendre, si tout s'est passé naturellement, qu'il pourrait y avoir en tout cas certains groupes d'éléphants qui auraient des pratiques aussi très proches de l'enterrement pratiqué par les humains.
Élise Huchard, justement, par rapport à ces éléphantaux, ces indices ne sont pas suffisants pour soutenir la thèse d'un enterrement intentionnel ?
En fait, le problème de ces observations, c'est qu'il n'y a pas eu d'observation directe. En fait, il n'y a personne qui était là au moment où les éléphants auraient enterré les corps d'éléphantaux. Ça laisse quand même planer un doute sur le fait qu'il y a une possibilité que les éléphantaux soient tombés dans ces tranchées et pas réussi à en sortir, et que finalement ce soit en essayant de les secourir que de la terre soit tombée dessus. C'est pas forcément l'interprétation la plus parcimonieuse, mais il reste un doute et on n'est pas sûr en fait que ce soit vraiment des comportements d'enterrement. En tous les cas, on est sûr que les groupes d'éléphants visitent régulièrement les corps morts et portent une attention vraiment très particulière à ce moment-là, comme l'a bien décrit Sabrina.
En tout cas, si c'était le cas, enfin si ce n'était pas des éléphants qui, ou si c'était des éléphants qui étaient tombés, des éléphantaux qui étaient tombés dans ces canaux, la durée sur laquelle ces observations, donc juste des cadavres effectivement, ont été faites, est vraiment courte. Donc pourquoi d'un seul coup ils seraient tous mis à tomber dans les canaux d'irrigation, ça pose question. Oui, mais effectivement, enfin, on attend vraiment plus de cas dans cette zone-là, si c'est quelque chose qu'on pourrait penser comme étant culturel de ce groupe d'éléphants, pour pouvoir confirmer. Et c'est bien là, en fait, toutes nos difficultés, c'est que bah, il faut voir, prendre des observations rigoureuses pour pouvoir vraiment faire un état des lieux de ce qu'on connaît sur ces espèces et leur relation à la mort.
En tout cas, par rapport à notre espèce, hein, des travaux d'archéologie ont montré que les cérémonies funéraires, comme les enterrements, sont pratiquées depuis très longtemps. Nous avons des traces qui remontent à au moins 100 000 ans. Il est possible aussi que Néandertal ait aussi eu des rituels similaires. Mais alors, comment définir le deuil chez les animaux? L'éthologie moderne, hein, comment cette discipline s'empare-t-elle de cet objet d'étude? Restez à l'écoute.
France Culture. La science CQFD, Natacha Trio.
En direct sur France Culture avec Sabrina Krief et Élise Huchard, nous parlons du comportement des animaux face à la mort, plus exactement d'un deuil animal. On vient de voir qu'il s'agit d'un champ d'études récent. Nos maigres connaissances actuelles sont tirées d'observations anecdotiques et peu d'articles scientifiques examinent ce sujet. Élise Huchard, on voit quand même une discipline récente, la thanatologie comparée. Ça, c'est l'étude des réactions comportementales et physiologiques des animaux face à la mort. Mais les premiers travaux ne datent que des années 2000 à peu près.
Oui, en fait, c'est un champ assez récent, en fait, c'est qui a vraiment pris son expansion, même, je dirais, après les années 2010. Et là, pour le coup, dans les 15 dernières années, il y a eu, je dirais, une explosion, entre guillemets, de littérature là-dessus par rapport à ce qui se passait avant. Ça reste un champ assez petit, en fait, assez contenu de l'éthologie, ouais, en effet.
En 2014, dans son ouvrage « Comment les animaux font leur deuil », l'anthropologue du vivant Barbara King a donné une définition du deuil. Élise Huchard, quelle est justement cette définition un peu plus scientifique?
En général, le deuil fait allusion à la réponse émotionnelle à la perte d'un proche. C'est accompagné de manifestations à la fois comportementales et physiologiques. Chez les humains, les réactions physiologiques typiques, ça va être par exemple des troubles du sommeil, un état de stress chronique ou post-traumatique. Et il y a aussi des perturbations de l'immunité. Chez les animaux, on n'a pas forcément observé toutes ces réactions physiologiques, mais il y a vraiment des comportements qui traduisent une détresse émotionnelle qu'on a pu observer à la fois chez des animaux domestiques, il y a des très beaux témoignages de ça, mais aussi chez des animaux sauvages avec des comportements de prostration, une forme d'isolement social, parfois des cris de détresse aussi poussés par notamment, j'ai entendu une mère babouin pousser des cris de détresse déchirants au moment de la perte du cadavre de son petit. Et puis, il y a une très belle étude, parce qu'on a beaucoup moins d'éléments sur les aspects physiologiques, en fait, de la réaction à la mort, mais il y a une très belle étude sur les babouins chacma dans l'Okavango, qui montre que les femelles qui ont perdu une compagne proche ont des hormones de stress élevées pendant un mois suite à la perte de cette compagne, et qui donc qui montre bien que ces manifestations ne sont pas juste comportementales, qu'il y a une réponse physiologique comme ce qui est décrit chez les humains pour le même genre de durée pendant plusieurs semaines.
En effet, cette étude de 2006 qui montre un stress physiologique comparable à ce qu'on observe également chez nous, Sabrina Krief.
Oui, et de façon générale, quand on essaye d'avoir un peu des études longitudinales avec un grand nombre d'individus, on arrive à faire ressortir ces symptômes. C'est le cas, par exemple, également chez des chimpanzés en sanctuaire où on a essayé d'évaluer l'état de dépression. Et effectivement, il existe des stress post-traumatiques qui sont beaucoup plus prégnants que chez les animaux en milieu naturel. Mais malgré malgré tout, Jane Goodall, la première, a décrit des changements de comportement très forts hein, chez des individus, donc soit qui devenaient orphelins avec cette prostration qu'Élise décrit, et même chez des individus qui étaient sevrés, certains qui se laissent mourir, même si d'autres congénères essayent de leur porter de l'aide, essayent de les amener vers des lieux d'alimentation, parfois même des frères ou des individus plus âgés qui essayent de porter, le petit refuse et donc parfois reste dans cet état de prostration très longtemps. Il y a aussi des études qui ont été faites sur les chiens, une étude assez de long terme qui a été faite sur des familles où les propriétaires avaient au moins deux chiens et ils ont essayé de documenter ce qui se passait chez le chien survivant. Et là aussi, les questionnaires ont montré que les propriétaires rapportaient une perte de l'appétit, une diminution du jeu, une perte de l'intérêt de façon générale. Donc pas chez tous les chiens, mais chez certains individus. Et bon, ça montre malgré tout, même si là encore c'est rapporté par des propriétaires.
C'est la perception des propriétaires, donc il y a aussi quelque chose de peut-être un peu biaisé aussi dans ces...
Oui, mais sur le fait, par exemple, d'une perte d'appétit, etc., évidemment, le chien va moins jouer s'il n'a pas de compagnon de jeu. Ça semble assez évident. Mais par contre, sur le fait d'avoir moins d'entrain, etc., et souvent, ça, c'est des symptômes qui se sont rapportés pendant quelques semaines et parfois jusqu'à plusieurs mois, avec donc parfois des troubles aussi de type dépressif.
Alors, vous évoquiez, Sabrina Krief, justement le fait de porter des petits, ça c'est ce qu'on appelle la nécrophorèse, au sens large, hein, ça correspond au fait à ce comportement hein, qui consiste donc à transporter des cadavres. Chez quelles espèces observe-t-on ce comportement ?
Alors, on l'observe chez de nombreux primates et également, en fait, moi j'ai pu l'observer chez des éléphantes. Donc j'ai pu observer deux cas, l'un directement de mes yeux et l'autre, encore une fois, grâce aux caméras trappes. Et donc c'est d'autant plus étonnant chez des espèces qui n'ont pas de mains et pour lesquelles le cadavre est difficile à transporter parce que lourd, glissant et donc pas manipulable facilement. Et c'est encore plus étonnant avec donc les cétacés qui vont soutenir le corps des individus morts pour les ramener à la surface. Donc là, pour le coup, sans main et sans trompe, quoi. Voilà, donc ça, c'est assez évidemment étonnant et touchant. Souvent, on a tendance à dire peut-être que la mère, en fait, ne s'est pas rendue compte que le petit avait perdu la vie. Et donc, c'est sous le coup des hormones. Elle continue à s'en occuper, à l'épouiller, etc. Ce qu'il faut aussi dire, c'est que en tant que vétérinaire, parfois, on a tendance à se dire on a envie de faire une autopsie. Et donc, du coup, on enlève le cadavre d'un des congénères. Et là, parfois, et moi, ça m'est arrivé il y a quelques années, au tout début de mon travail, on se rend compte que l'effet sur les individus qui restent peut être important. Donc, j'ai complètement arrêté ça, en fait.
Vous avez observé, en effet, des différences de comportement chez les animaux à qui vous retiriez un cadavre.
Voilà, donc dans le cas, par exemple, d'une mère qui était morte avec deux enfants dont un était largement en âge de survivre, même si on a caché le corps, etc., il y a eu vraiment une recherche intense de la mère, etc. Pareil pour un bébé qui était mort et on se demandait s'il y avait une infection respiratoire. Et donc, à chaque fois, c'était bien évidemment pour comprendre la cause de la mort et éventuellement la prévenir. Dans le cas de cette femelle à qui on avait pris le bébé qu'elle avait posé sans savoir si elle allait venir le reprendre, on a constaté qu'elle n'épouillait plus son petit, mais elle a passé une journée à épouiller des feuilles, le regard figé, complètement enfermé comme ça dans un comportement stéréotypique. Là, on s'est posé la question de savoir est-ce que, bien sûr, elle avait déposé le corps et ça nous semblait être intentionnel, donc on n'avait pas l'impression de lui avoir pris, mais peut-être que finalement, après un certain temps, elle serait revenue prendre le corps. Donc il y a aussi aujourd'hui ce changement, je pense, d'attitude des chercheurs et notamment des vétérinaires et l'importance également de laisser à disposition le corps des individus morts pour peut-être pas faire le deuil, mais en tout cas laisser s'exprimer les comportements naturels des animaux qu'on étudie.
Alors ça, comment l'interpréter justement ? Parce qu'Élise Huchard, on l'a dit, hein, porter un cadavre pour un chimpanzé ou un éléphant, c'est coûteux, c'est une dépense énergétique non négligeable. Comment ça s'explique d'un point de vue évolutif ?
Enfin, il y a plusieurs hypothèses. D'ailleurs, juste pour ajouter sur le cas de la nécrophorèse à tous les exemples donnés par Sabrina, c'est un comportement qui est aussi rapporté chez les insectes sociaux, en fait, les termites ou les fourmis qui, dès qu'elles détectent un individu mort, un corps, elles vont le prendre et le porter à l'extérieur de la termitière ou de la fourmilière. Et c'est largement considéré comme un comportement très hygiénique, beaucoup plus que comme une réaction de deuil, parce que pour l'instant, l'étude des émotions chez les invertébrés, chez les insectes, pour le coup, on a très peu d'éléments tangibles pour savoir s'il y a ou pas des émotions chez ces espèces-là.
Oui, ce sont juste des réactions à des signaux chimiques chez les insectes, voilà, sociaux.
Assez probablement, exactement. Et alors, en revanche, c'est très différent chez les primates en particulier, les cétacés, les éléphants, les espèces dont on a déjà largement parlé et qui dominent largement la littérature thanatologique. En fait, a priori, l'hypothèse principale, je dirais, il y a plusieurs hypothèses et on n'a pas une réponse définitive et c'est probablement une combinaison d'hypothèses qui vont expliquer ces comportements. Mais l'hypothèse principale, c'est que c'est une façon pour la mère de faire face à la détresse émotionnelle provoquée par la rupture brutale du lien d'attachement très fort avec l'enfant. Et donc, en fait, ce ne seraient pas des comportements qui seraient adaptatifs, ces comportements de deuil. Ce serait au contraire, ce qui est adaptatif, c'est le lien très fort qui relie la mère à son enfant, en fait, et ces comportements de deuil, ce serait plutôt un sous-produit, en fait, de la force de ces liens sociaux, dès lors que la sélection naturelle, elle a favorisé l'évolution de liens si forts, ben, la rupture brutale de ces liens est extrêmement difficile, et pour la mère, porter le corps de son enfant, ça l'aiderait un petit peu à faire face, en fait, à cette difficulté. Il y a d'autres hypothèses, il y a une hypothèse aussi assez intéressante sur le fait d'être capable de détecter, en fait, de diagnostiquer la mort. Et donc, c'est possible aussi que ces mères, dans certains cas, elles continuent à porter le corps de leur enfant en espérant que peut-être il va revenir à lui. C'est des hypothèses qui sont soutenues par certains arguments expérimentaux. Il y a une méta-analyse récente, très intéressante, qui montre que les mères, elles portent plus et elles portent plus longtemps les petits qui sont morts d'une mort paisible, entre guillemets, donc mort de maladie, quand il n'y a pas de traces de blessure sur le corps. Par opposition, parfois j'utilise le mot enfant, c'est un anglicisme de infant en anglais qui se dit pour les bébés primates. Quand les corps sont très blessés, souvent les mères les portent moins longtemps. Et peut-être parce que sur la base de ces blessures, elles diagnostiquent plus facilement la mort. Et donc c'est des éléments qui pointent vers la possibilité d'une représentation de la mort des mères et du fait qu'elles sont vraiment capables de distinguer effectivement la mort du coma ou d'autres états.
Toujours d'un point de vue évolutif, Sabrina Krief, on a en effet cité cet exemple de cette mère, de cette femelle baleine de Cuvier qui a été observée en train de nager autour de son baleineau mort, qui tentait de le porter à la surface comme pour l'encourager à respirer. Ça, c'est des comportements qu'on observe lorsque les adultes aident les baleineaux à prendre leur première respiration. Est-ce que dans ces comportements entre guillemets de deuil, ce serait des sortes de dérives, de comportements de soins parentaux?
Oui, probablement, et d'ailleurs chez d'autres espèces aussi, en fait, on voit cette réaction qui encourage en fait à reprendre vie, et notamment, enfin, juste en réaction à ce que Élise expliquait, ma collègue Shelley Massy, qui étudie les gorilles, a été témoin en fait de la chute d'un bébé gorille, et pour le coup, là, sa mère en a pris soin. Enfin, au départ, il était complètement inconscient, elle est restée à côté, etc. Et il a repris vie. Donc, le fait que il puisse y avoir comme ça des périodes relativement longues, hein, ça lui a pris vraiment pas mal de temps avant de reprendre vie, justifie le fait que la mère n'abandonne pas tout de suite la dépouille. Et dans le cas des éléphants, souvent, au moment de la mort, on les voit essayer de relever le corps de leur congénère. Il y a même un cas qui est décrit par Pierre Pfeffer, donc qui était un spécialiste des éléphants, qui décrit un éléphant qui s'est cassé une défense, une éléphante d'ailleurs, qui s'est cassé une défense en essayant, à force d'essayer de relever le corps d'une des femelles de son groupe. Donc oui, essayer par des actions qui pourraient s'apparenter à de la réanimation, hein, essayer d'encourager le mourant à reprendre des forces, ça fait partie des gestes qu'on peut voir, et je suppose que tout le monde a un peu en tête l'histoire de ce primate qui avait été électrocuté et où on voit un congénère vraiment s'affairer autour de lui, etc. Donc là aussi, on se dit que juste en le secouant, parfois, ça peut avoir un effet positif et aider un peu le mourant à ressusciter.
En effet, une vidéo qui avait été très relayée, qui avait été aussi grande source d'inspiration sur les travaux à propos de l'empathie animale. Alors que savons-nous de la conscience de la mort chez les animaux ? Ces comportements de deuil nous renseignent-ils finalement sur cette conscience-là ? On y vient dans quelques instants, restez avec nous.
Outside to ride around in circles. I know you have got the time, 'cause anything I want, you do. We'll take a ride through the strangers who don't understand how to feel. In the death car, we're alive. In the death car.
Pop in the Death Car, en direct sur France Culture, car nous parlons des animaux et de leur relation à la mort. On en parle avec nos deux invités du jour, Sabrina Krief, vétérinaire et primatologue, professeure au Muséum d'Histoire Naturelle, et Lise Huchard, chercheuse CNRS en écologie comportementale à l'Institut des Sciences de l'Évolution de Montpellier. Les sciences examinent donc l'hypothèse du deuil chez les primates, mais aussi chez d'autres espèces animales, comme les oiseaux, qui manifestent des comportements énigmatiques. On en parle avec vous, Céline Lezen, bonjour.
Bonjour Natacha.
Alors pour le reportage du jour, vous êtes allée dans les jardins du Muséum National d'Histoire Naturelle à Paris pour observer des corneilles qui représentent un cas d'étude intrigant.
Oui, en l'occurrence, Bob et Alice, un couple qui domaine le territoire du Jardin des Plantes. Agatha Liévin-Bazin et Marilyn Taipamar, toutes deux éthologues cornéistes, analysent des situations où ils peuvent exprimer des comportements types associés à la mort d'un congénère. Des signaux toutefois à évaluer avec beaucoup de prudence pour éviter l'écueil de la projection anthropocentrique.
C'est sans doute l'un des meilleurs endroits de Paris pour croiser des corneilles, les corneilles vaguées. On peut voir par exemple Bob et Alice qui habitent près des Grandes Serres, qui est un des couples, on va dire, les plus remontés. En tout cas, un des plus efficaces parce qu'il a su monopoliser un grand territoire. Donc c'est facile de les croiser. Puis elles ont toutes une bague verte ou rouge avec un numéro qui permet de les identifier précisément.
Ah, il y en a une là-bas.
Alice, on en voit.
Enfin, c'est Alice ou Bob, donc c'est l'une des corneilles qui vivent ici, en fait, qui détiennent ce territoire qui est assez grand. Donc c'est vraiment l'un des power couples du Jardin des Plantes qui contrôle toute cette zone. Ça veut dire qu'il la défend contre les autres corneilles et qu'ici il travaille, c'est-à-dire qu'il quémande auprès des gens pour essayer d'obtenir un petit peu de nourriture. C'est Alice en fait.
C'est Alice. Ah, t'arrives à les distinguer quand même juste
Bob, il lui manque la griffe de la patte postérieure droite.
Bon, ils se rapprochent quand même assez régulièrement. Chacun vit sa vie, mais ils se retrouvent, ils se séparent, c'est un truc...
Oui, ils se tiennent à vue d'œil. Est-ce que dans vos suivis et dans vos observations, vous pouvez constater des phénomènes atypiques où on pourrait avoir affaire à des comportements de groupe autour d'un congénère malade ou décédé ?
Oui, c'est quelque chose qui m'est arrivé en suivant un groupe de corneilles, justement des jeunes. J'ai vu des corneilles commencer à s'amasser au-dessus d'un arbre en criant toutes en groupe. Et donc je suis allée voir au pied de cet arbre et effectivement il y avait l'un de leurs congénères qui était mort, qui portait une bague d'ailleurs. Et donc pour les besoins de l'étude, j'ai prélevé ce cadavre pour aller le porter un petit peu plus loin, le mettre en sécurité. Il se trouve que les corneilles, effectivement, en revoyant leur congénère, le cadavre de cette corneille, se sont mises de nouveau à crier et à s'amasser autour du cadavre en criant.
De quelle manière on pourrait analyser ces chants particuliers? Est-ce qu'il y a des enregistrements qu'on pourrait décrypter au moyen de soft ou par une intelligence humaine qui pourrait laisser des indices?
Alors, chez les corneilles, à ma connaissance, il n'y a pas eu d'études, mais l'une des personnes référentes sur ces questions de rapport aux congénères décédés chez les corvidés, c'est une chercheuse américaine qui s'appelle Kaylee Swift, qui a travaillé sur ces questions-là au cours de sa thèse. Elle a étudié ça chez les corneilles d'Amérique, mais qui, en soi, ont pas mal de similitudes avec nos corneilles européennes. Et en fait, quand les oiseaux découvrent le cadavre d'un congénère, ils font vraiment un type de cri bien précis, en anglais qu'on appelle le scolding, qui est, on pourrait traduire par du houspillage, du grondement, si je puis dire. C'est vraiment un cri fort qui a pour but, de ce qu'on a compris, de prévenir les congénères de la présence du congénère décédé. Et souvent, en fait, ce cri va faire venir les autres corneilles autour du lieu où a eu lieu le décès. La première réaction que l'on peut analyser, outre les questions de deuil émotionnel sur lesquelles on a encore que très peu d'informations, c'est vraiment la recherche d'informations. Il y a la présence d'un congénère mort, cet endroit est dangereux, on essaye de comprendre si c'est encore une bonne chose de venir à cet endroit-là ou s'il y a un danger potentiel à venir à cet endroit-là.
Donc ça infirme l'hypothèse selon laquelle il y aurait une symbolique autour de la mort et d'une commémoration autour de l'individu mort.
À peu près tous les gens, je pense, qui ont travaillé avec les corvidés sont d'accord pour dire que ce sont des animaux qui ont une vie émotionnelle riche, où il y a des liens importants entre les congénères. Mais malheureusement, les observations actuelles ne permettent pas de savoir ce qui se passe dans leur tête et dans leurs émotions. Les données actuelles montrent qu'en tout cas, le terme de funérailles, dans le sens où nous on l'entend, c'est-à-dire rendre hommage à un congénère, on n'a pas beaucoup de choses. On leur attribue du coup un comportement qui est le nôtre, mais à l'heure actuelle, on ne peut pas déduire plus que ce qu'on a observé, à savoir, c'est de la recherche d'informations, et l'information qu'un congénère soit mort, ça peut être une source de danger.
Donc on dispose finalement que de données parcellaires, très lacunaires. En tout cas, on est très loin d'une capacité à formaliser quelque chose sur ce comportement-là. Est-ce que c'est un axe de recherche qui vous intéresse aussi dans vos suivis?
Alors en tout cas, c'est un comportement que j'ai pu observer à plusieurs reprises, non seulement autour d'un congénère mort, mais parfois de manière inter-espèce. C'est-à-dire que j'ai observé ces funérailles, avec des guillemets, autour d'une aile de pigeon, donc sans le pigeon qui était au bout, simplement une aile. Une corneille est tombée dessus et elle s'est mise à crier et à amasser les autres qui sont venus en criant perchés autour de l'arbre. Et c'était vraiment assez impressionnant, tout ça pour un bout d'animal qui n'était même pas l'un de leurs congénères. Et j'ai également vu Bob, en l'occurrence, commencer à alerter pour un masque chirurgical noir qui était au sol. Donc je ne sais pas dans quelle mesure il est capable de reconnaître un congénère mort. Peut-être qu'il s'est dit, ça ressemble à un congénère, donc dans le doute, je vais alerter au cas où ça puisse être utile. Mais c'est vrai que c'est des comportements qu'on retrouve, y compris avec d'autres oiseaux ou carrément avec quelque chose qui ressemble à une corneille, sans en être une.
Alors, il y a Bob qui s'est rapproché de nous, là. Il est en train de butiner un buisson.
Il fait de l'escalade. Mais je trouve que c'est très intéressant ce que tu dis là sur cette observation avec du coup la corneille qui réagit avec un masque chirurgical. Ça serait super intéressant de voir qu'est-ce qui suffit pour déclencher le comportement. Mais dans les papiers de Kaylee Swift, elle avait fait des expériences avec donc des corneilles qui étaient naturalisées sous la forme d'un oiseau mort et d'autres qui étaient taxidermisées sous la forme d'un oiseau debout comme s'il était vivant. Et les corneilles ne réagissaient pas de la même façon. C'est-à-dire que quand c'était un oiseau debout, elles l'identifiaient comme si c'était un oiseau vivant. C'est-à-dire qu'elles l'attaquaient comme si c'était un compétiteur sur leur territoire. Alors que l'oiseau, factuellement, était mort. Mais ça veut bien dire que la posture était analysée comme différente. Et c'est ça qui faisait une différence de comportement. C'est marrant parce qu'elle faisait des petits bruits, là, Alice.
Oui, oui.
Les petits...
Qui est un bruit qu'on
comprend pas du tout.
Ouais, en fait. Ah, mais... on n'arrive pas à...
Non, on ne sait pas exactement ce que ça veut dire. On ne sait même pas si c'est un, si un vocabulaire, c'est-à-dire un cri correspond à des mots en quelque sorte ou des phrases, ou si c'est une grammaire au sens où c'est toujours les mêmes mots, mais l'intonation diffère, la fréquence diffère, etc.
Mais ouais, c'est un cri de goutte d'eau un peu. Ouais, j'ai déjà entendu. On m'a déjà demandé qu'est-ce que ça veut dire et j'ai pas de réponse.
Ah bah ça c'est Bob, tiens.
Tu veux pas nous faire entendre ta voix?
Merci Céline Lozen et merci Bob pour ce reportage. Élise Huchard, on l'entend, on voit des réactions de forme de deuil dans un large, dans de très nombreuses espèces.
Alors, il y a toujours la difficulté à savoir est-ce que c'est du deuil ou est-ce que c'est des réactions à la mort qui ne sont pas de l'ordre du deuil. Le deuil, on parle du deuil en fait que pour les individus qui sont émotionnellement liés à l'individu qui a disparu. Il peut y avoir plein d'autres comportements thanatologiques, c'est-à-dire des réactions à la mort ou aux morts eux-mêmes qui ne sont pas forcément de l'ordre du deuil. Notamment, Sabrina, elle nous avait cité des comportements d'exploration, des comportements parfois ouvrir la bouche du cadavre, etc. Des choses que des comportements qu'on appelle thanatologiques parce que justement ils sont faits uniquement autour de corps morts. Et c'est un peu ces comportements-là qui peuvent nous informer peut-être, enfin, ou fournir le début d'une information sur le fait que les animaux ont une représentation de la mort et réagissent pas de la même façon, se comportent pas de la même façon avec des individus morts ou des individus vivants. Le deuil lui-même, il n'implique pas une conscience de la mort nécessairement. Le deuil, c'est une réaction émotionnelle à la perte d'un proche. Et cette perte, elle n'implique pas forcément la mort. En fait, ça peut être simplement la disparition d'un proche, mais on ne sait pas s'il est mort ou pas. Donc, ce n'est pas toujours les observations de deuil qui nous informent le mieux sur les représentations mentales autour de la mort que les animaux pourraient se faire.
Vous voulez dire que cette question de la conscience de la mort chez les animaux, c'est surtout une question de philosophie et d'éthologie cognitive. Enfin, c'est très difficile à aborder scientifiquement.
Oui, en fait, on est dès lors, de toute façon, qu'on s'intéresse aux états mentaux et notamment aux formes de conscience, que ce soit la conscience de soi, la conscience des autres, la conscience de la mort. On est sur des concepts qui sont extrêmement difficilement accessibles pour les sciences expérimentales. Sur ces concepts-là, il y a eu des apports vraiment précieux par certains philosophes qui travaillent sur cette question. Je pense en particulier pour ce qui est de la conscience de la mort, la philosophe espagnole Susana Monzo, qui a beaucoup travaillé sur cette question et qui a, je pense, fourni un éclairage très très précieux sur ce que justement on pouvait inférer ou ne pas inférer des observations qu'on a. En fait, on a compris depuis le début de l'émission qu'on est assez restreint dans nos approches expérimentales de la mort. En fait, on est un peu restreint. On travaille surtout sur des anecdotes et du coup il y a une grosse question sur à quel point on peut les interpréter et comment on peut les interpréter. Et donc là-dessus, l'apport des philosophes il est précieux, et notamment elle défend l'idée que finalement, alors que pendant longtemps, on pensait que la conscience de la mort, c'était un trait exclusivement humain, une capacité cognitive exclusivement humaine, comme beaucoup d'autres capacités cognitives, elle défend l'idée qu'il y a probablement une forme de conscience de la mort plus simple, probablement que celle des humains, moins riche, mais qui pourrait être possédée par de nombreuses espèces, en fait.
D'un point de vue phylogénique, Sabrina Krief, quelle place le deuil occupe-t-il ?
Ce qu'on montre par ces exemples-là, c'est que souvent on est plutôt attiré en termes d'interprétation par les espèces qui sont les plus proches de nous, notamment les primates, peut-être parce que c'est plus facile pour nous de nous projeter et d'interpréter leur comportement et éventuellement de projeter nos émotions sur les leurs. Mais là, on voit que le spectre des espèces qui fournissent des exemples de comportements autour de leur mort est très large. Plus on s'éloigne de nos espèces, alors on reste quand même, on l'a vu, très, très tourné autour des mammifères, même si les oiseaux fournissent des exemples intéressants. Pour l'instant, la difficulté, c'est effectivement de pouvoir comprendre les émotions des animaux et surtout de sortir de notre propre référentiel. Donc, on suppose qu'ils ressentent de la douleur, de la joie, etc. Et que cette douleur, elle est bien présente, mais c'est pas forcément la même douleur que la nôtre. Et donc, ça nous met aussi face à nos incompétences et aux larges travaux qui restent à faire.
Justement, l'étude des états mentaux a longtemps été évitée par crainte d'anthropomorphisme. Alors, comment éviter à la fois cet écueil de l'anthropomorphisme, de l'anthropocentrisme et de l'anthropodénie ? Restez à l'écoute.
France Culture, la science CQFD, Natacha Triou.
En direct sur France Culture avec Sabrina Krief et Élise Huchard, nous parlons des comportements des animaux face à la mort, celle d'autrui, de leur famille, de leurs petits, de leurs proches. Petite question, Élise Huchard. L'anthropodénie, c'est cette notion qui a été proposée par le primatologue France Deval, décédé en mars dernier, qui désigne la tendance à nier par défaut les capacités émotionnelles des animaux. Comment éviter, en tant qu'éthologue, cet écueil de l'anthropomorphisme, de l'anthropocentrisme et de l'anthropodénie ?
Oui, France Deval, en fait, il faisait l'observation que pour des espèces qui étaient très proches de nous, comme on a évoqué beaucoup, par exemple les chimpanzés, mais aussi d'autres primates non humains, qui manifestaient le même type de réaction comportementale que ce qui peut être observé chez les humains dans une situation similaire, en fait, assez souvent, on se refusait même à pouvoir envisager l'idée que finalement, c'était les mêmes émotions, les mêmes états mentaux qui les agitaient dans ces cas-là, alors qu'au final, c'est quand même l'hypothèse la plus parcimonieuse. Donc c'est maintenant, je pense qu'on, notamment sous l'impulsion de primatologues comme France Deval, qui a œuvré énormément dans ce sens-là, je pense vraiment qu'il y a une très forte évolution de la discipline. Et aujourd'hui, on n'hésite pas à envisager ces hypothèses anthropomorphiques sans crainte de le faire, avec des interprétations beaucoup plus riches des états émotionnels et cognitifs des animaux. Et c'est vraiment essentiel de toujours envisager, en fait, dans le panel d'hypothèses qui peut être évoqué pour interpréter un comportement ou une observation. C'est vraiment essentiel d'envisager cette explication-là, surtout quand il s'agit d'espèces très proches de nous, dans un contexte très proche de nous, comme je l'ai dit. Maintenant, c'est important aussi de ne pas oublier qu'il y a des interprétations alternatives, comme le disait Sabrina, et que parfois, ça peut être troublant parce que les réactions ressemblent énormément aux nôtres. Mais ce n'est pas pour ça que c'est forcément les mêmes émotions ou pour les mêmes raisons. Et notamment, on a beaucoup évoqué ces comportements de portage des corps des petits, qui souvent sont le fait de la mère du petit. Mais on a observé aussi que parfois, ces comportements de portage, ça peut être le fait d'individus qui n'étaient pas du tout apparentés, qui n'étaient pas du tout liés émotionnellement au petit, et qui fait que en fait, dans ces cas-là, a priori, c'est pas du deuil parce qu'il n'y a pas eu la perte, la rupture brutale du lien. Et donc, ça nous suggère qu'il peut y avoir d'autres raisons qui ne sont pas forcément le deuil, qui poussent les individus, les babouins, les primates à porter des petits décédés, et que donc le deuil, c'est pas la seule interprétation à considérer. Donc, il faut être vraiment très prudent, mais à la fois, je pense, se permettre d'envisager les explications anthropomorphes aussi.
Mais par rapport justement à cette compréhension de l'émotion animale, hein, pour prendre les éléphants, ils ont une trompe très sensible, un odorat surdéveloppé, une perception fine des infrasons, un hippocampe très complexe qui est le siège de la mémoire émotionnelle et traumatique. C'est impossible de connaître exactement la réalité psychique de ces animaux qui ont un univers perceptif si différent du nôtre. Comment on s'y prend, ça,
pour... Non, pas forcément. Enfin, c'est pas parce qu'on est très éloigné qu'on peut pas réussir à mettre en évidence l'avant et l'après. C'est-à-dire de rester dans l'étude de l'espèce qu'on étudie et pas forcément de se référer à nous-mêmes. Et d'ailleurs, enfin, pour rebondir sur cet aspect émotionnel et montrer que ça n'est pas forcément uniquement entre des individus apparentés. Dans le cas des chimpanzés, en fait, j'ai souvent vu des individus qui étaient amis, entre guillemets, subir en fait la perte ou la disparition d'un proche, mais cette fois-ci sur un plan affectif. Donc, par exemple, des vieilles femelles, quand l'une décède, peu de temps après, l'autre décède après aussi. Donc, souvent, on est étonné par ça et on met ça sur le compte peut-être du lien affectif qui les unissait. Il faut aussi garder en tête que c'est souvent un repère pour ces individus âgés et que se déplacer à deux, c'est pas pareil que devenir seul. Donc il y a sûrement à chaque fois différentes interprétations qui peuvent aller dans un sens parallèle. Et se rappeler aussi, je pense que ce qu'Élise disait aussi, c'est que la disparition ne veut pas forcément dire la mort. Et par exemple, chez les chimpanzés, le système fission-fusion est une sorte d'entraînement à la perte de l'autre. Les femelles migrent à l'adolescence et elles ne reverront plus jamais leur famille et ceux avec qui elles ont grandi. Elles vont intégrer une nouvelle communauté où elles ne connaissent personne. Donc pour la mère, ça veut dire ne plus jamais revoir sa fille. Et pour la fille, c'est ne plus jamais revoir sa communauté d'avant. Finalement, nous, on interprète ça. Enfin, quand un individu disparaît du groupe, on est extrêmement inquiet, etc. Mais probablement, chez les chimpanzés, la perception est différente de cette absence. Donc c'est aussi essayer, en tant que chercheur, de s'imprégner de l'espèce qu'on étudie et de ne pas projeter nos propres émotions, mais en tout cas d'essayer de comprendre le système social et de quelle façon une disparition peut être interprétée.
Se débarrasser de notre référentiel humain. Vous me racontiez d'ailleurs ici à ce micro que le sourire des chimpanzés, c'est pas du tout un signe sympathique par exemple, mais au contraire un signe d'agression.
Alors chez les primates de façon générale, ce qu'on appelle un sourire, c'est souvent
être humain.
Mais chez les chimpanzés, en fait, il y a différentes forme, effectivement, d'expression faciale, dont celle de montrer les dents, qui peut être une menace ou au contraire un signe de très grande peur. Et donc, oui, il faut faire attention à la façon dont on interprète les signaux émotionnels des animaux.
Sur justement, pour l'interprétation, l'analyse de ces signaux émotionnels, il y a l'analyse de l'activité cérébrale en lien avec ces comportements. On en est au balbutiement de ces analyses-là. Que sait-on de cette activité cérébrale sous-jacente à ces comportements, Sabrina Krief?
Moi, je ne sais pas grand-chose, pour tout vous dire. Et je pense que ce qui a été fait, c'est surtout des choses qui ont été faites en captivité. Et donc, on a beaucoup à apprendre. Et Élise et moi, la semaine dernière, on était un symposium autour de l'anniversaire des 45 ans d'un projet qui est le projet des chimpanzés de taille. Et ils développent un projet de recherche autour des cerveaux. Et donc, ils essayent de récupérer les cerveaux de primates morts en milieu naturel pour justement pouvoir faire un lien entre leur vie dans un environnement naturel et la présence ou l'absence de certaines aires et certaines particularités des cerveaux en fonction des caractéristiques sociales des espèces. Et donc ça peut nous donner vraiment une vision nouvelle et un regard beaucoup plus, loin de tout ce qui était expérimental en labo, où malheureusement on a trop souvent fait subir des chocs émotionnels aux animaux. Et voilà, j'espère que ça nous en écartera un peu.
Le Thai Chimpanzee Project qui se déroule donc en Côte d'Ivoire. Sabrina Krief, on arrive à la fin de cette discussion. Alors, que faire pour aller plus loin, pour trancher cette question du deuil animal? Parce que pour le moment, on n'a que des observations anecdotiques, mais l'anecdotique, c'est peut-être le début de quelque chose, et ça, vous en savez, justement, quelque chose.
Oui, mon sujet de recherche, c'est l'automédication, donc la zoopharmacognosie chez les chimpanzés. Donc ça soulève aussi beaucoup de questions qui peuvent être en relation avec la question du soin et du rapport à l'autre, de l'empathie, etc. Et évidemment, on n'arrivera à progresser que si, ensemble, on récolte ces anecdotes et qu'on en fait un corpus suffisant pour après pouvoir l'interpréter. Mais ce qu'il faut aussi surtout se dire, c'est que ce qu'on a comme information sur un individu, un groupe social, etc., ne représente pas forcément l'espèce. Et donc, éviter d'essentialiser et de dire, parce que peut-être un groupe d'éléphants a mis des éléphantaux, les pattes en l'air, parce qu'à cet endroit-là, il y avait des canaux d'irrigation, il y a des comportements culturels de ce type et des rituels chez tous les éléphants. Donc, l'idée, c'est de documenter le plus possible la diversité des pratiques et des observations pour en faire quelque chose de plus solide et rigoureux.
Bien, merci. Merci à vous deux. Merci Élise Huchard, merci Sabrina Krief. Dans quelques secondes, on retrouve la chronique d'Alexandra Delbo. Mais j'attire votre attention sur un événement événement qui me tient à cœur. Demain commence le Festival de Sciences sur les épaules des géants. Ça se tiendra au Havre jusqu'à samedi. C'est un événement riche en projections, conférences et surtout c'est gratuit. Et tout de suite, c'est la chronique d'Alexandra Delbo. C'est la chronique avec science.
Comment apparaissent les blooms d'algues? C'est ce qu'on appelle aussi des efflorescences ou même le sang des glaciers, parce que la prolifération de ce micro-organisme donne une teinte rouge sang à la neige. Son petit nom, c'est Sanguina nivaloides. On la retrouve sur les vieilles neiges où il y a un petit peu de glace, mais surtout de l'eau. Et c'est dans cette eau liquide qu'elle se développe. Elle ne résiste d'ailleurs pas vraiment à la congélation. Cette algue a conquis tous les terrains neigeux, de la haute montagne jusqu'au cercle polaire, et c'est sa présence dans les Alpes qui nous intéresse aujourd'hui. Léon Roussel est doctorant au Centre d'études de la neige, au Centre national de recherche météorologique à Grenoble, rattaché au CNRS et à Météo France. Il est le premier auteur de cette étude parue dans PNAS.
Par exemple, dans les Alpes, on sait qu'il y en a à quelques endroits. On connaît ces endroits-là. On a des observations à certains moments. Alors jusqu'à maintenant, ces blooms d'algues, on les observe à la fin du printemps, donc en montagne, à peu près vers 2000-2500 mètres d'altitude. Et souvent, en fait, c'est sur des vieux névés qu'on les voit. En fait, là, quand la neige, elle commence à finir de fondre sur les dernières zones d'accumulation, on voit ces blooms d'algues apparaître. Donc c'est vraiment fin du printemps, début de l'été, on va dire mois de juin, début juillet. Mais on n'a pas de globalisation de l'information. On ne sait pas en fait à quel point ils s'étendent sur tout l'arc alpin. Et au niveau microbiologique, c'est pareil. Ces blooms d'algues posent encore beaucoup de questions. Les algues, elles sont pas toujours faciles à étudier. Et donc là, par exemple, l'algue à laquelle on s'intéresse, qui s'appelle Sanguina nivaloides, on n'arrive pas encore à la cultiver. Donc on cherche à avoir d'autres informations sur elle à une échelle, par exemple, plus grande ici, à l'échelle de l'arc alpin.
Il reste encore tout à faire pour comprendre comment apparaissent ces blooms d'algues et ce qui dirige ces efflorescences, c'est-à-dire quels sont les facteurs qui influencent leur prolifération. Pour cela, cette nouvelle étude a analysé 5 années d'images satellites dans les Alpes européennes, mais il y a une difficulté. Il ne faut pas confondre sang des glaciers, ces blooms, avec du sable en provenance du Sahara. Sable qui se dépose et ressurgit à la surface du manteau neigeux au printemps, soit au même moment que les algues. Visuellement, l'un est rouge, l'autre orangé et peut tirer sur le rouge. En tout cas, il n'est pas évident de faire la distinction. Alors, pour les différencier, les scientifiques ont eu recours à une intelligence artificielle, plus précisément à du machine learning. Ce n'est pas tant que l'œil humain n'est pas capable de distinguer le sable des algues, c'est simplement que cela permet de gagner du temps, de les classer plus rapidement et c'est le principe d'automatisation. Ensuite, on peut mener ce qui nous intéresse vraiment, l'analyse de ces données, donc comparer l'état du manteau neigeux chaque année, donc s'il y a plus ou moins de neige, des petits ou gros flocons, avec la survenue des efflorescences. Résultat, les blooms préfèrent les lentes fontes neigeuses.
On a fait une observation, c'est que sur les 5 années, il y avait 2 années où on observait beaucoup plus de blooms d'algues que les autres. Et donc ça nous a fortement interrogés, on a essayé de comprendre qu'est-ce qui favorisait l'apparition des blooms d'algues à la surface du manteau neigeux. Et ce qu'on a remarqué, c'est qu'en fait, les blooms d'algues, ils étaient favorisés par une fonte de la neige qui était très longue. Typiquement, une durée de 46 jours. Au-delà de cette durée-là, on avait davantage de blooms d'algues sur 2 années que sur les autres années. Et voilà, c'est vraiment ce temps de fonte qui, pour nous, favorise l'apparition des blooms d'algues intenses à l'échelle du massif alpin. En fait, quand on a une fonte du manteau neigeux qui va être longue, c'est qu'on va avoir un manteau neigeux qui va être gorgé d'eau liquide pendant longtemps. Et les algues, elles ont besoin d'eau liquide pour se développer. Elles ont besoin d'eau liquide, de soleil et de nutriments. Et de CO2 aussi. Et en fait, avoir un temps avec de l'eau liquide qui est très long, ça va les aider à se développer pendant plus longtemps. Et donc, par conséquent, peut-être former des blooms qui sont plus importants à la fin de la saison.
Et donc, cela fait sens avec ce que l'on connaît de la physiologie de l'algue. Et on en sait finalement encore très peu. La suite, en attendant de parvenir à la cultiver en laboratoire, c'est de réaliser le même genre de cartographie au niveau non pas local, mais mondial, pour voir si d'autres facteurs influencent leur dynamique ailleurs. L'autre question est celle évidemment de l'influence du changement climatique. Et là, bonne nouvelle, dans les Alpes, et c'est spécifique à cette chaîne de montagne, le temps de fonte reste à peu près le même, quelle que soit la projection climatique utilisée. Elle diminue légèrement pour les scénarios d'émissions les plus élevés, mais cela signifie que les blooms d'algues ne devraient pas être trop affectés par le changement climatique à l'horizon 2100.
Merci Alexandra pour votre chronique et merci à vous pour votre écoute. Et merci à toute l'équipe de la Science CQFD. Merci à la technique aujourd'hui, à Guillaume Ficheux. Vous pouvez nous écouter partout, à toute heure, en podcast sur le site de franceculture.fr ou sur l'appli Radio France. C'était ce qu'il fallait démontrer à ce jour.